Bonjour, je m'appelle Gabriel Huet et je vous souhaite la bienvenue au balado du Philab. Ici, nous allons explorer l'univers philanthropique canadien en présentant des acteurs du milieu ainsi que leurs expériences. Bienvenue à tous et à toutes pour notre édition du mois de février. Cet épisode sera consacré à la collaboration dans le secteur de la philanthropie. Il est de plus en plus évident que le modèle de collaboration actuel fait défaut pour de nombreux acteurs qui ont besoin d'aide de la part du milieu. Le modèle de financement par projet, bien que réfléchi à atteindre des objectifs spécifiques, ne tient pas la route lorsque l'on regarde les besoins des communautés. Avec des mouvements sociaux comme LandBack et BLM, on entend des voix qui demandent à reprendre le contrôle de leur vie à travers l'autonomie et l'innovation culturelle. Dans cette logique, il n'est plus réaliste de regarder un problème et d'y mettre un prix. Il nous faut comprendre le contexte derrière la problématique, la réalité des acteurs en jeu, les biais et les barrières qui font ralentir l'acheminement des ressources et bien d'autres angles d'analyse. Nos deux invités ont accepté de participer à un exercice de réflexion en nous présentant les approches de collaboration de leurs organisations. Maryse Lemay est chef du développement durable et de l'engagement communautaire chez Énergir, et Karel Méran est le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Si le sujet de cet épisode vous intéresse ou vous fait penser à une expérience que vous avez déjà vécue, nous aimerions vous entendre. Je vous invite à partager votre histoire dans la section des commentaires de notre publication. Sur ce, bonne écoute. Donc, merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Donc, on va commencer tout de suite avec la présentation un peu de qui vous êtes et de l'organisation que vous représentez. On commencera avec Maryse, si possible.
Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Maryse Lemay. Je suis chef développement durable et engagement communautaire chez Énergir. J'ai deux grands chapeaux, en fait, le développement durable, où je suis impliquée dans la démarche ESG pour environnement, social, gouvernance. J'accompagne mes collègues aussi dans la réduction de leur empreinte environnementale. Puis, je publie le rapport de développement durable et je participe à la publication du rapport sur la résilience climatique qui est publié justement le mi-février. Puis mon deuxième chapeau, c'est les dons, donc toute l'action philanthropique d'Énergir, notre implication dans la communauté. Énergir, c'est une entreprise du secteur énergétique. À haut niveau, là, la moitié de nos activités sont dans la distribution du gaz naturel au Québec. L'autre moitié, on se trouve à être dans la production et la distribution d'énergie renouvelable. Donc, par le biais de nos filiales, on produit puis on distribue de l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique aussi. Donc, principalement là, dans le nord-est des États-Unis, notamment au Vermont. On valorise aussi le plus possible l'efficacité énergétique parce que c'est un gisement d'énergie en soi. Puis, on s'investit aussi beaucoup dans le développement du gaz naturel renouvelable, le GNR, qui est en fait du gaz naturel qui est produit à partir de déchets organiques. Donc, tout ça là, dans l'idée de participer à la décarbonation du Québec par la décarbonation même de nos activités.
Excellent, merci Maryse. Ensuite, on irait avec Karel, s'il vous plaît.
Oui, alors moi, je suis président, directeur général de la Fondation du Grand Montréal. Auparavant, j'ai fait 12 ans comme militant écologiste, là, comme directeur à la Fondation David Suzuki pour le Québec et l'Atlantique. Et la Fondation du Grand Montréal, pour résumer, c'est un peu comme une caisse de dépôt de la philanthropie. On gère 700 fonds philanthropiques qui sont créés autant par des individus que par des organismes, par exemple l'Orchestre symphonique de Montréal ou Centraide. Ça va de petits fonds de 10 000 $ jusqu'à des fonds de plus de 40 millions. Et on a 700 fonds philanthropiques comme ça et 420 millions de $ d'actifs sous gestion. Notre rôle, dans le fond, comme fondation communautaire, c'est d'aider les gens à créer des fonds philanthropiques, de rendre ça accessible, puis ensuite distribuer les subventions à la communauté. Là, depuis notre création en l'an 2000, on a distribué, je pense qu'on a rendu quelque chose comme 125 millions de subventions dans la communauté. Depuis mon arrivée, on a pris un virage puisqu'on est arrivé à une échelle qui est intéressante là, comme fondation communautaire. Donc, on peut commencer à travailler pour essayer d'avoir un impact dans la communauté. Et on a fait ça en décidant de travailler sur trois priorités avec les subventions, avec nos subventions propres, parce que la Fondation du Grand Montréal peut elle-même déterminer certaines subventions qu'on verse. Là, il y en a d'autres qui sont déjà prédéterminées par les gens qui créent des fonds chez nous. On a identifié la transition écologique, l'équité sociale, puis la diversité et l'inclusion comme les trois thématiques. Et aussi, on a décidé de prendre un virage qui est assez important. C'est en philanthropie, normalement, on a des actifs, puis on va distribuer 3,5%, peut-être 4%, des fois un petit peu plus à chaque année. Mais il y a un 100% de l'actif qui, lui, est investi sans nécessairement avoir être investi en fonction de la mission de l'organisation, des valeurs de l'organisation. Alors nous, on a adopté une nouvelle politique d'investissement responsable l'automne dernier qui dit dorénavant 100% de nos actifs, donc les 420 millions, vont être investis en tenant compte de nos valeurs d'organisation, notre mission qui est de soutenir les objectifs du développement durable des Nations Unies, donc en intégrant tout le ESG dans nos investissements. On a une cible climatique de réduire les émissions de notre portefeuille de 45% d'ici 2030. Et bon, donc on a intégré toutes sortes de choses là-dedans, mais pour nous, là, c'est très, très important. Aussi, dans les 3 ou 4 prochaines années, on a l'intention de mettre 10% de nos actifs en investissement d'impact, préférablement dans la communauté. Ça veut dire que sur le territoire du Grand Montréal, on aurait jusqu'à 50 millions là, dans les prochaines années qu'on voudrait faire atterrir dans des investissements d'impact. Donc, c'est une transformation assez importante pour donner plus d'impact à notre organisation.
Merci, c'est vraiment intéressant cette vision-là de comment les investissements ont un rôle à jouer aussi. C'est pas juste les projets en tant que tels. Mais c'est bon parce que ça rentre un peu dans la raison de pourquoi on vous a rassemblés aujourd'hui pour discuter. C'est la thématique de la discussion d'aujourd'hui, c'est la collaboration dans le milieu philanthropique. Donc, je lancerai déjà la première question qui est c'est quoi les modèles de collaboration que vous retrouvez le plus dans votre secteur? Puis un exemple que vous pourriez donner pour montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble lorsque votre organisation se lance dans une collaboration avec un acteur quelconque.
Oui, mais quand on parle de collaboration, on parle de partenariats multidisciplinaires ou multipartites, mm-hmm. Donc des partenariats qui peuvent rassembler des acteurs du monde public, privé, communautaire ou de la société civile. Donc, c'est différents acteurs qui se mettent ensemble pour un but commun. Puis, un des exemples qui illustre bien là, un succès de collaboration, si je peux dire, c'est l'exemple de la création de l'organisme qui s'appelle la Ruelle de l'Avenir. Nous, Énergir, notre siège social est situé dans un milieu sensible. Hein. On est à la frontière entre Hochelaga-Maisonneuve et Centre-Sud. Puis une des problématiques de notre quartier, c'est le taux de décrochage scolaire. On est à peu près à un taux de 27 % comparativement à la moyenne de l'île de Montréal qui est de 18 %. Donc, pour la petite histoire, c'est un organisme qui est venu nous voir, qui s'appelait Projet 80, cogné à notre porte pour nous demander un soutien financier pour les aider à réaménager des locaux qui venaient de se faire donner par la commission scolaire de Montréal à l'époque. Et plutôt, nous, que d'évaluer la demande comme n'importe quelle demande de don qu'on peut recevoir là, traditionnellement avec nos critères d'attribution, puis décider d'un montant qu'on pourrait leur offrir, on a pris un pas de recul, puis on s'est dit, mais là, c'est vraiment un enjeu dans notre quartier. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler cet enjeu-là à un autre niveau, donc différemment, puis de dire, bien, on ne veut pas juste vous faire un don à vous, on veut vraiment travailler sur la persévérance scolaire dans notre quartier. Donc là, on s'est adjoint la commission scolaire, justement, à l'époque, donc l'organisme et des partenaires financiers aussi du monde privé pour ensemble vraiment en arriver à créer là, l'organisme de la Ruelle de l'Avenir qui amenait une façon d'apprendre différente aux jeunes basée sur les concepts de l'Edible Schoolyard qui était né en Californie. Donc, on croyait vraiment dans le modèle. Fait que c'est une association, donc une collaboration du monde communautaire, du monde des affaires, puis du monde scolaire. Donc, ça fait une belle rime qui illustre vraiment que trois secteurs qui ne se parlent pas nécessairement souvent, mis ensemble, ont été capables de créer quelque chose qui a directement eu un impact sur le taux de décrochage de notre quartier. Puis, il y a des études qui ont suivi des jeunes qui sont passés par Ruelle de l'Avenir puis qui sont venus vraiment démontrer que ça a un impact une fois qu'ils entrent au secondaire, là, d'avoir passé par cet organisme-là. Donc, des meilleurs résultats scolaires, mais aussi meilleure confiance en eux, meilleure estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont été capables d'aller chercher des petits succès là, à travers l'approche spécifique de la Ruelle de l'Avenir. Donc, un bel exemple de collaboration.
Est-ce que là, tu as parlé du fait qu'il y avait eu des études? Est-ce que vous avez conduit ces études-là ou c'est un autre corps indépendant qui les a amenés pour voir l'effet de la pratique?
C'est des chercheurs de l'Université de Montréal qui ont été mandatés pour suivre des cohortes de jeunes qui sont allés ou qui ne sont pas allés à Ruelle de l'Avenir, puis qui les ont suivis vraiment sur un certain nombre d'années. Là. Donc, c'était piloté par Rock Chouinard.
Intéressant, donc, intéressant. Mais c'est bon parce que je rentrerai un peu vers Carrel en disant vous, comme c'est une fondation qui a une fonction très spécifique qui est l'accumulation de capital, l'investissement et tout ça, est-ce que vous vous retrouvez à faire le même modèle de collaboration ou est-ce que vous vous retrouvez devant les mêmes acteurs un peu quand que vous pilotez des projets?
Pour nous, c'est beaucoup la collaboration entre les acteurs philanthropiques. Je dirais qu'on se trouve un peu un genre de hub, de carrefour entre les acteurs philanthropiques. Par exemple, au début de la pandémie, on s'est rendu compte, il y a certains acteurs philanthropiques qui se sont rendus compte qu'il y avait des quartiers à Montréal où la pandémie avait frappé beaucoup plus sévèrement, puis en plus, où la vaccination progressait moins. Et donc, il y a plusieurs fondations qui se sont mises ensemble, là, Molson, Saputo, Jaroslawski, Trottier, pour déployer des programmes d'intervention sur le terrain. Donc, elles avaient l'intérêt de collaborer ensemble, c'est-à-dire pooler les ressources. Mais nous, ce qu'on a fait, d'abord, c'était Fondation philanthropique du Canada qui a pris la coordination de ça. Puis ensuite, comme c'était sur le territoire de la Fondation du Grand Montréal, comme la logique voulait que dans une phase 2, nous, on le reprenne. Donc, pendant plus d'un an, on a aidé à la coordination pour, dans le fond, réduire les coûts de transaction. Là. C'est pour pas que chacune de ces fondations-là soit forcée de coordonner. Pour nous, c'est un rôle qu'on a pu jouer. C'est une forme de collaboration. Dans d'autres cas, par exemple, on collabore en ce moment avec la Fondation Mécanorde, avec Centraide, avec la Fondation Trottier. On réfléchit ensemble à se donner un véhicule d'investissement d'impact. T'sais, pour encore là, nous, si on met 50 millions, mais si on est plusieurs à mettre, on peut aller au-delà de 500 millions en investissement d'impact dans les prochaines années, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble? Donc, on se pose la question de ce point de vue-là aussi. Mais peut-être la formule de collaboration la plus poussée qu'on a développée, c'est quand on a lancé le partenariat Climat Montréal avec la Fondation Trottier, on s'est inspiré de ce qui avait été fait à Boston. Boston, il y a la Fondation BAR qui a réuni des acteurs philanthropiques de la ville pour créer ce qu'ils appellent le Green Ribbon Commission. Ce n'est pas un Blue Ribbon, c'est un Green Ribbon Commission. Et l'objectif était d'aider la ville de Boston à atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Ils ont réuni les grandes institutions de Boston, les universités, les institutions de santé. Il y a quelque chose assez similaire aussi du côté de Londres. Alors nous, on a dit on va faire la même chose du côté de Montréal parce qu'on avait collaboré activement avec la ville pour faire le plan climat. On a dit on va mobiliser les grands acteurs montréalais. Donc, c'est la philanthropie qui arrive et qui dit on met nous les ressources pour coordonner cette mobilisation-là. Donc, il y a trois employés qui ont été embauchés. On dirige, si on veut, une espèce de comité directeur, mais là-dedans, on est allé chercher à peu près 25 grandes organisations montréalaises. Tu sais, puis ça va de la Chambre de commerce jusqu'au Conseil régional d'environnement de Montréal, on a le port de Montréal, l'aéroport de Montréal, deux universités, il y a Énergir, il y a Hydro-Québec. Donc, les acteurs, là, les gros joueurs montréalais qui sont capables de faire bouger des choses dans le bon sens, il y a des gens du secteur du bâtiment, j'aurais dû dire aussi des investisseurs, on a les fonds d'action, fonds de solidarité, caisse de dépôt, donc des gens de la finance, Desjardins est là aussi. Puis là, la question, c'est, OK, On a 10 ans devant nous pour réduire les émissions de 55 % à Montréal par rapport à 90. Donc, c'est un effort qui est colossal. Cet effort-là est nécessaire pour atteindre l'objectif du Québec qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030. Donc, c'est le chiffre de Montréal qui correspond au chiffre du Québec. Comment on fait ça? Comment on s'organise ensemble? Donc, le travail de concertation, nous, comme on se dit, la philanthropie, on n'a pas tous les leviers, là, même si on a des fonds philanthropiques, mais on n'a pas les capacités d'investissement, ni les capacités techniques, ni les capacités de mobilisation que d'autres ont. Par contre, on a la capacité peut-être de réunir les gens, les faire collaborer. Et donc, ça a donné lieu, au bout du compte, là, il y a des groupes de travail qui se sont formés, on a plus de 100 organisations montréalaises qui ont collaboré. Puis après un an, là, ça fait à peu près un an qu'on a commencé à travailler, il y a des projets concrets qui émergent, on va avoir un sommet sur le climat au mois de mai. Donc, c'est une forme de collaboration dans ce cas-là qui déborde le secteur de la philanthropie, mais qui va vraiment mobiliser les acteurs publics, privés, sur notre territoire pour arriver justement à débloquer l'action sur la question du climat.
Et c'est quand même un volume d'interaction très élevé là, de ce que j'en comprends, là, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont mêlées dans tout ça, mais on dirait que le pont que je fais entre ce que j'ai entendu de Maryse et de vous, Karel, c'est que le rôle de logistique, ce rôle-là de coordonner, de permettre aux plusieurs institutions ou organisations de travailler ensemble, mais il y a comme la personne du milieu qui doit relier tous ces gens-là est aussi importante que, mettons, les fonds qui peuvent être mis. J'ai pas ça rentre un peu aussi dans la troisième question, c'est que on parle ici peut-être plus de macro, puis dans le cas de Maryse, du micro, de l'intervention micro sur le terrain. C'est sûr qu'on ne parle pas nécessairement des mêmes défis, mais dans cette collaboration-là, puis cette logistique-là, c'est quoi les défis qui reviennent le plus souvent à vos yeux ou que vous avez eu la chance de pouvoir régler dans le cas de votre exemple spécifique?
Bien, je peux y aller, puis poursuivre justement dans un niveau plus concret là, d'initiative locale. Mm-hmm. C'est sûr qu'un des défis, pour pas se le cacher, c'est plus long. C'est parfois plus complexe à gérer parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées. Puis c'est parfois plusieurs cultures différentes. On peut avoir des difficultés à se comprendre si on n'utilise pas le même langage ou on n'a peut-être pas nécessairement le même rythme de travail. Un autre exemple que je peux mentionner, c'est on a travaillé avec l'organisme Dans la rue, l'ancien Bon Dieu Dans la rue. Donc, ils ont une roulotte, un véhicule qui va à la rencontre des jeunes itinérants dans la rue qui étaient rendus en fin de vie. Donc, on les a accompagnés dans le renouvellement là, de leur véhicule. Maintenant, ils utilisent une roulotte qui roule au gaz naturel renouvelable. Mais ça a pris 4 ans avant d'en arriver là, à l'aboutissement de ce projet. Donc, c'est juste, ça démontre effectivement que des fois, ça prend un peu plus de temps, plus de patience pour certains. D'autres peuvent se sentir bousculés. Mais la balance des inconvénients va vraiment du côté des avantages. Quand on est des groupes diversifiés autour d'une même table qui se penchent sur un même problème, mais les solutions sont plus variées, sont plus riches. Quand on parle dans la lecture de la diversité, là, souvent ce qu'on va mentionner, c'est que le potentiel de résolution d'un problème par un groupe homogène est beaucoup moins bon que quand on a un groupe diversifié parce qu'on voit le problème sous plusieurs angles. Donc, quand on veut s'attaquer à un enjeu qui soit très local ou qui soit à un niveau plus global, bien, d'avoir différents acteurs pluridisciplinaires autour de la table, bien, c'est définitivement plus riche puis ça amène à des belles innovations.
Mais c'est drôle comment tu l'as amené aussi, le fait que justement cette différence culturel par moment peut amener des inconvénients au niveau du volume de travail ou juste la perception de comment ça doit être fait. Est-ce qu'il n'y a pas un challenge au niveau de comment qu'on publicise ce projet-là pour les décideurs un peu, dans le sens que si, admettons, ces gens-là n'ont pas cette perception-là de comment que le projet doit avancer ou la mission en tant que telle, est-ce que c'est plus difficile d'amener la participation après ça dans le projet ou ça, c'est plus vraiment quelque chose de difficile à faire aujourd'hui?
Mais je pense qu'il faut arriver justement à partager un langage commun. Puis quand on arrive à ce moment-là, bien, on est tous alignés sur le même objectif là, au final. Donc, ça fait avancer les choses.
J'aime vraiment cette perspective-là. Parce que moi, j'étudie en communication, donc c'est vraiment quelque chose qu'on se concentre beaucoup à créer les ponts entre, même si on parle la même langue, le français, on va quand même avoir des incompréhensions à travers des mots qu'on utilise de manière commune. Mm-hmm. Ça, c'est un travail qui est sous-estimé, je crois, aussi au niveau de juste s'entendre sur qu'est-ce qu'on dit à la base. Et j'irais peut-être avec Karel aussi, à ce niveau-là, au niveau plus macro, est-ce que ce défi-là revient beaucoup, le manque de communication, je dirais peut-être les incompréhensions culturelles entre les entreprises lorsqu'ils se coordonnent entre eux?
Je dirais que dans le défi, pour nous, c'est vraiment plus d'assurer la continuité puis des actions concrètes. Tu sais, parce que c'est bien facile d'aller s'asseoir autour d'une table, OK, puis de dire, hey, je suis membre du partenariat climat, tu sais, puis là, tu sais, après ça, tu peux mettre ça dans ton rapport de développement durable, puis hey, on a participé à la concertation, tout, mais il ne pourrait rien se passer. Puis des résultats qu'on aurait, c'est les rencontres qu'on a eues, pour dire on a eu 8 rencontres, puis tout le monde serait bravo. Tu sais. Alors, dans ce cas-ci, le défi qu'on a, c'est qu'on s'est donné une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. Okay. Et là, ça, c'est plus difficile. Au plan macro, une obligation de résultat, c'est travailler avec plusieurs éléphants pour essayer de les faire bouger en même temps. Puis je ne dis pas ça négativement, là, tu sais, la caisse de dépôt, c'est gros, tu sais, puis Énergir, c'est gros, tu sais, puis Hydro-Québec, c'est gros, l'aéroport de Montréal, c'est gros, tout ce monde-là ont des processus, ont des jardins, même chose. Donc, tu as beaucoup de pouvoir. Mais il y a aussi une... Ce n'est pas des organisations qui peuvent virer sur un dixaine. Donc, c'est ça. Puis, mais quand on va là, au plan plus, disons, plan plus micro, là, pour sauter à l'autre étape, pas à l'autre perspective, une des choses qui est importante, là, c'est que l'angle mort là, de la philanthropie, c'est qu'on a le pouvoir de l'argent. Et souvent, on va débarquer avec nos idées là, qu'on a réfléchies de notre côté là, en disant « Hey, ça, c'est une super bonne idée. » Puis on débarque sur le terrain. Puis là, le terrain... eux autres, ils passent 30 % de leur vie à essayer de faire des demandes de financement pour être capables d'avoir leur permanence l'année prochaine. 30 % de leur vie à siéger sur des tables parce que la ville ou les philanthropes leur demandent de siéger sur des tables. Après ça, il reste 30 % du temps, tu sais, ou 40 % du temps pour donner des services, faire leur travail. Fait qu'ils sont vraiment submergés. Et quand on arrive par-dessus en disant on vient de réinventer le May West ou je ne sais pas quoi, là. Des fois, eux autres, c'est comme « wow ». Et il faut être conscient de ce déséquilibre de pouvoir-là parce qu'ils peuvent difficilement nous dire non parce qu'on arrive avec de l'argent. OK? Et là, tout le défi pour nous, on expérimente en ce moment un concept qui s'appelle la philanthropie de confiance, c'est-à-dire essayer d'inverser les rapports de pouvoir ou au moins les atténuer. C'est-à-dire que tu vas rencontrer les gens dans une posture d'écoute pour voir comment tu peux être utile plutôt qu'arriver avec les solutions que tu as réfléchies avec tes consultants puis essayer de les déployer. Et c'est pas évident, hein, parce que tu sais, c'est comme tu pars dans des conversations totalement ouvertes, mais au bout du compte, les organismes, ils vont dire, ce qu'on a besoin, nous, c'est d'arrêter le financement par projet. On a besoin de financement prévisible sur plusieurs années. Fait que, tu sais, alors que, tu sais, la philanthropie aime ça, là, tu sais, à toutes les 2-3 ans, évaluer son impact, après ça, tu sais, refaire tous ses programmes ou tous les 5 ans, puis... je pense que la véritable collaboration éventuellement peut s'instaurer quand il va y avoir cette confiance-là puis ce soutien-là mutuel qui se fait entre le milieu puis la philanthropie. Certaines fondations le font très, très bien, d'autres moins. Pas toutes les fondations qui sont structurées avec... Il y a des fondations familiales qui distribuent beaucoup d'argent, mais qui ont très peu de staff.
Oui.
Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup des grandes équipes qui peuvent faire des analyses, qui peuvent faire des entrevues. Nous, c'est un défi pour nous là, quand on parle, disons, à 50 ou 60 organismes. J'ai une équipe de 2 personnes. Ça prend des semaines de faire ça là, pour notre équipe de développement communautaire. Là. Alors, tu sais, je pense qu'il faut toujours être conscient que la véritable collaboration, l'argent, comme le rapport financier, peut être un obstacle à la véritable collaboration si on n'en tient pas compte.
C'est vraiment intéressant parce que, en plus, ça me fait penser à un exemple. Là, j'ai un blanc de mémoire au niveau de l'organisation en tant que telle qui avait fait le projet, mais c'est un organisme en France qui avait parti d'une mission pour aider à aller chercher de l'eau dans les puits dans des pays en Afrique. Puis leur principe de collecter l'eau, c'était comme un jouet pour enfants où c'est un levier où on saute d'un bord et de l'autre. C'est comme un jeu dans les parcs. Puis eux, leur logique, c'était, ben, tu sais, on va faire jouer les enfants en même temps qu'ils prennent de l'eau. Mais l'affaire, c'est que pour que ça fonctionne, il faudrait qu'il y ait quelqu'un sur la machine pendant 24 heures de temps, genre sans arrêt, tout le temps. Fait que quand ils sont arrivés, ils ont installé le mécanisme et tout, puis personne ne l'a utilisé, puis ils ont réutilisé les puits qu'il y avait par le passé. Fait que cette idée-là de comme arriver avec un projet en tête, de l'imposer à la communauté, c'est justement, je suis d'accord avec vous, c'est très désuet, puis des fois, ça peut causer des torts parce que finalement, ça ne servait à rien. Mais dans cette optique-là, où ce que l'idée de financer par projet, on doit passer à un autre niveau. Peut-être, Marie, si tu pourrais présenter un peu la démarche que Énergir utilise, qui est ce que tu avais nommé, c'était la philanthropie transformationnelle, si j'avais bien compris. C'est ça?
Oui, bien, on tend vers ça, hein, en toute humilité. Quand on parle de philanthropie transformationnelle, on parle, dans le fond, de la création de valeur partagée. L'idée de transformer des investissements monétaires en réel changement, donc en impact. C'est justement l'idée d'une approche relationnelle à long terme, un partage des responsabilités puis une implication proactive. Vous avez peut-être entendu souvent la phrase qui dit « investir versus s'investir ». Donc, c'est sûr que c'est l'approche que nous, on tente d'avoir. Puis, on a évidemment des dons, nous, qui sont modestes. On donne 1,7 million en dons à chaque année. Ça représente quand même 1,5 % de notre bénéfice net, qui est à peu près la moyenne de ce que les grandes entreprises vont remettre dans leur communauté. Donc, dans nos moyens, on se trouve à être généreux. Mais ça fait qu'on remet relativement des dons modestes. Donc, des petits montants parce qu'on soutient 200 à 250 organismes par année. Donc, c'est un peu initié par cette approche-là qu'on s'est dit, bien, nous, tu sais, on ne veut pas juste faire un chèque à un organisme puis pas se reparler avant l'année d'après quand ils refont une nouvelle demande, mais aller au-delà du simple montant ou du simple chèque qu'on remet. Donc, s'impliquer avec les organismes qu'on soutient. Puis, c'est pour ça que nous, on est ouvert à faire des dons à la mission. En fait, on laisse aux organismes nous approcher avec leurs besoins, justement. Puis, certains, ça va être quand même de soutenir des projets, mais ils sont heureux de voir qu'on peut offrir du financement à la mission parce que ça leur donne une prévisibilité dans leur budget, puis ça leur donne aussi l'occasion d'allouer les ressources où est-ce qu'ils en ont le plus besoin. Puis c'est dans cette approche-là, souvent on va avoir une première année où on va être en exploration avec un organisme, une année un peu de test. On n'est pas les seuls à faire ça. Fondation Chagnon aussi, là, cette même approche, ils appellent ça leur année dialogue. Puis après ça, on va s'engager sur un soutien de 3 ans, 5 ans, donc un soutien pluriannuel, justement pour pouvoir développer cette relation, puis mettre à profit notre expertise, nos ressources, nos employés pour pouvoir aider l'organisme autrement que juste par le soutien financier. Puis c'est là où on dit qu'on tend là, vers cette transformation-là, puis on collabore donc ensemble sur des enjeux qui sont les enjeux prioritaires pour nos communautés. Puis, on travaille de cette façon-là aussi partout au Québec. Donc, j'ai parlé de notre siège social, mais on a des bureaux d'affaires aussi dans les régions. Puis, c'est le même fonctionnement, toujours dans notre petite échelle d'impact à nous.
Ça semble vraiment moins contraignant comme méthode de travail parce que, tu sais, comme un peu, Karel, tu l'avais mentionné, le fait d'arriver avec son idée préfaite puis d'imposer un peu un budget à à un organisme en sachant que pour eux, c'est difficile de refuser de l'argent, ben, on n'est pas dans l'optique de régler un problème, on est plus dans l'optique de mettre un étampe sur un papier pour dire qu'on a causé un changement quelconque. Mais pour la Fondation Montréal, ça représente quoi au niveau terrain de faire cette collaboration-là différente, à peu près, si je te demanderais un peu un exemple plus concret? Ouais.
Bien, quand on a créé notre fonds sur l'équité sociale il y a un an, on a d'abord on a essayé de réfléchir à ce qu'on voulait accomplir avec ce fonds-là, puis ensuite, quand on a déterminé qu'on voulait s'orienter vers une philanthropie de confiance, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à appeler des gens sur le terrain. Bon. Puis là, tu sais, le réflexe naturel, c'est d'appeler les gens que tu connais déjà. Sauf que nous, ce qu'on se rend compte après 20 ans, tu sais, puis c'est comme ça dans toute la philanthropie à travers le Canada, puis probablement ailleurs dans le monde, il y a moins de 1% des dons philanthropiques qui vont aux communautés racisées, immigrantes. Et donc, là, on a dit, bien là, il faut faire un effort, tu sais, pour aller... Les réseaux, souvent, n'existent pas. Donc, il faut comme faire un effort volontaire de outreach pour aller parler à du monde, connaître du monde. Et ensuite, avoir une première conversation, tu sais, pour voir un peu c'est quoi les besoins, c'est quoi les organismes, puis éventuellement être capable de, à travers eux, ils nous présentent d'autres organismes, tout ça, faire une espèce de mapping, puis voir bien, où sont les besoins, puis qui devrait être financé, puis de quelle manière. C'est le contraire, tu sais, de dire, OK, on met un appel de proposition sur notre site Internet, puis il y a un formulaire, puis tu remplis les 10 pages, puis tu n'as aucune idée, tu sais. Là, dans ce cas-ci, tu sais, nous, on, dans le fond, ça veut dire qu'il y a aussi un transfert d'efforts, c'est-à-dire que nous, on requiert moins d'efforts des organismes. Probablement que nous, ça nous fait plus d'efforts en amont, moins en aval, parce qu'on a moins de demandes à traiter, puis les demandes sont plus courtes. Mais on, faut, donc, ça nous a demandé vraiment de sortir de notre zone de confort. D'une part, en allant essayer de parler à des gens qu'on ne connaît pas, tout ça, puis d'élargir nos réseaux, ce qui est une excellente chose. On est une fondation communautaire, on devrait être le reflet de notre communauté, pas seulement le reflet des gens qui créent des fonds chez nous, puis tu sais, qui veulent donner à l'hôpital où ils ont été traités ou à leur alma mater, ce qui est une très bonne chose, mais quand même, tu sais. Alors, un coup qu'on a fait ça, après ça, ce que ça nous demande, c'est, tu sais, normalement, ce qui est rassurant pour une organisation comme la nôtre, puis ce qui est rassurant pour un conseil d'administration comme le nôtre, c'est d'avoir un appel de proposition, un formulaire, une grille de pointage, puis là, tu remplis le pointage, puis il n'y a pas eu rien de... Tout a été comme objectif, il n'y a pas eu rien de subjectif, puis là, on peut dire on a été fair avec tout le monde dans la communauté, tout ça. Puis on a des métriques, tu sais, pour dire, tu sais, c'est exactement... Puis là, tout le monde est à l'aise là-dedans. Mais ce qu'on réalise, c'est que cette méthode-là, c'est une méthode qui a historiquement démontré qu'elle est une barrière pour les communautés qu'on veut rejoindre. OK? Tu n'auras pas des organismes autochtones qui vont arriver, là, puis ils ne vont pas partir sur un pied d'égalité avec des organismes plus structurés, tu sais, qui ont des permanences, tu sais, qui ont 20 ou 30 personnes. Tu sais, moi, quand j'étais à la Fondation David Suzuki, tu sais, on avait des équipes de développement pour remplir tous les formulaires que tu voulais. Mais le petit organisme naissant, peut-être, qui essayait d'aider, je ne sais pas, des gens à Montréal-Noir, au plan environnemental, des gens de la communauté noire, bien, eux autres, il n'y avait pas la permanence, il n'y avait pas les ressources. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils ne réussissent pas à passer. Donc, il faut démanteler certaines de nos structures avec lesquelles on est à l'aise. Puis là, ça cause le risque. Effectivement, des gens, des fois, disent, bien là, vous avez eu des conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? Avez-vous des critères objectifs? Est-ce que vous avez fait du favoritisme envers un, envers l'autre, tout ça? Donc, c'est un risque qu'on prend, mais c'est un risque qui est nécessaire parce que, comme je disais, c'est un peu comme ces grands tableaux Excel-là, puis ces grandes, tu sais, qui semblent être accessibles à tout le monde. Au bout du compte, quand tu regardes, c'est juste les organismes qui ont plus de staff pour remplir les demandes, qui sont plus professionnalisés, qui vont réussir à y accéder. Puis souvent, ces organismes-là, c'est des organismes qui viennent de la majorité blanche ou des organismes qui existent depuis plus longtemps, qui sont mieux structurés. Et donc, le gros des ressources philanthropiques va, c'est pareil en culture, aux grands organismes. Alors, tu sais, c'est pour nous, c'est particulièrement intéressant à expérimenter. On a la chance d'être une petite fondation, c'est-à-dire une petite équipe. On est capable de faire ça à petite échelle. On a la chance aussi d'avoir un conseil d'administration qui est très, très engagé dans la question de la diversité et de l'inclusion. Et donc, on peut se permettre d'expérimenter. Ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des erreurs, mais au bout du compte, si on réussit à faire des erreurs 10 % du temps seulement, puis d'avoir démantelé des barrières structurelles dans la philanthropie, ben on va avoir réussi.
C'est vraiment intéressant cette perspective-là, parce que la question du réseau, déjà, premièrement, c'est vrai que si on n'y pense pas, si tu parles avec les mêmes personnes tout le temps, ben tu ne grandis pas ta marge d'action, tu restes au même niveau. Puis c'est vrai que ça, j'avais déjà eu un cours un peu sur le fait que quand on fait un questionnaire, d'une certaine manière, mettons, pour évaluer les effets d'une formation, le questionnaire en tant que tel, il va être influencé par ses biais propres à nous. Puis si quelqu'un qui n'a aucune perception ou qui partage aucune de nos perceptions fait ce questionnaire-là, peut-être qu'il va répondre de manière complètement incorrecte, mais qu'il y a toutes les compétences nécessaires que tu recherchais au final, si tu n'as pas posé les bonnes questions.
Exact. Puis c'est ça qui est le problème, Nathan, c'est à quel point est-ce qu'on cherche un reflet de nous-mêmes à travers ces questionnaires-là, puis à quel point est-ce qu'on cherche à mesurer quelque chose vraiment, puis est-ce qu'on a les moyens de mesurer avec différentes métriques. Une des choses qu'on a faites, juste donner un exemple, là, nous, on voulait travailler sur le dossier de la réconciliation autochtone. Puis à un moment donné, on parle à une femme qui mène une organisme qui s'appelle The Circle, qui est en philanthropie autochtone. Puis elle nous dit, moi, je dis, écoute, tout bonnement, écoute, je ne sais pas quoi faire. On ne sait pas trop comment, par quel bout le prendre parce que, en fait, on a peur de se tromper. T'sais, j'ai peur de faire des erreurs. Puis elle me regarde du tac au tac et elle me dit, cette peur-là est au service de qui? Qui elle sert, cette peur-là? Puis là, j'ai réfléchi un peu, puis je dis, la peur sert le statu quo. OK? Et elle a dit, ce que vous devriez faire, c'est envoyer des chèques à une dizaine d'organismes. No questions asked, rien. Faites juste envoyer des chèques de financement à mission. Choisissez 20 organismes ou 10 organismes. Et c'est ça qu'on a fait. On a un fonds autochtone cette année. En 2021, pardon, on a versé 200 000, donc 20 000 $ par organisme qui est dirigé par ou qui travaille pour les Autochtones, autant en milieu urbain là, que sur les deux territoires là, qui sont sur Kanawake, Kanasitake. Puis on a juste fait ça comme ça, tu sais. Puis elle disait, c'est comme un paiement de réparation un peu, tu sais. Si tu veux dans la réconciliation, commence par dire comme faire comme un versement comme ça, juste faire un geste de bonne volonté. Mm-hmm. Puis écoute, c'est quand même quelque chose, tu sais. C'est un changement complet. Mais moi, ça m'a vraiment secoué, tu sais. Quand tu dis bon, t'es paralysé un peu, tu veux pas bouger, on va penser, on va réfléchir un peu. Puis elle dit, ben cette paralysie là. Elle sert le maintien des systèmes de pouvoir en place. Et ben là, à partir de ce moment-là, on a fait OK, c'est correct, on pète sur le piton puis on le fait.
Mmh. C'est fou parce que juste comment vous l'avez amené, le fait OK, non, mais on distribue puis on ne pose pas de questions. J'ai personnellement ressenti un mini sentiment d'anxiété. Genre dans le sens que comme même moi, dans mon biais personnel, genre je le sens, ce fonctionnement-là, je ne suis pas habitué, mettons. Comme c'est sûr que ça, cette peur-là, puis en plus, c'est fou comment que c'est placé. Il faut le voir, faut l'entendre, en fait, de l'extérieur pour le réaliser. Puis, mettons, j'enverrai peut-être vers Maryse. Vous, comme tu l'as présenté, vous êtes à l'écoute de la communauté qui vous entoure. Mais est-ce que vous sentez que ce problème de réseau-là existe aussi dans le sens que, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ne viennent pas vous voir par peur d'une lourdeur bureaucratique ou de ne pas pouvoir avoir qui ne porte pas à l'exigence de ce que vous vous demandez. Est-ce que vous sentez ça?
Ah, assurément, oui. Mais d'abord, je voudrais dire, Karel, c'est vraiment inspirant là, ce que vous faites. Puis c'est vrai que c'est une prise de risque, mais c'est un risque calculé qu'il fallait prendre. Là, donc, ouais, bravo pour votre démarche. De notre côté, oui, quand on regarde notre portefeuille de dons, qui était traditionnellement simplement réactif, dans le sens où on attendait d'avoir des demandes, nous aussi, qui passaient par un formulaire, puis on les analyse en fonction de critères, bien, il était peu diversifié, puis la représentation des communautés autochtones aussi était quasi inexistante. Donc, on a fallu, nous aussi, se questionner, puis dire, bien, pour rejoindre vraiment l'ensemble des communautés qu'on dessert, parce que un de nos objectifs, c'est d'améliorer la qualité de vie, mais où est-ce qu'on est présent principalement. Ben, l'idée, c'est de devenir, nous aussi, proactifs. Donc, on essaie d'avoir une approche décentralisée. On utilise aussi, puis on implique de plus en plus nos employés dans la sélection des organismes qu'on finance parce qu'on a une flotte de véhicules qui circulent dans les rues, qui est présent dans les communautés, plus de 345 communautés au Québec où on est présent. Ben, ils sont nos yeux, puis nos oreilles, puis ils sont eux-mêmes témoins de certains besoins que la communauté peut avoir. Donc, on s'appuie de plus en plus sur eux pour pas simplement être réactif puis attendre des demandes de dons sur notre site Internet. Donc, on intègre de plus en plus cette pensée, mais c'est un changement qui se fait graduellement.
Mais ce que j'entends à date, là, c'est vraiment, il faut avoir une posture de participant actif au niveau de aller voir les gens puis de les entendre. Au final, c'est un peu ça l'idée. Il faut arrêter de juste être un bloc à un endroit où ce qu'on peut aller voir puis que peut-être on va avoir l'aide. Il faut que les acteurs en tant que tels, ils donnent autant en énergie relationnelle, si on peut dire, qu'au niveau des ressources.
Exactement. Je pense que l'écoute, c'est la clé. Puis je pense que c'est une des choses importantes pour la Fondation du Grand Montréal. Puis ce l'est pour nous aussi.
Bien, écoute, je te relancerai peut-être encore une fois, Maryse, parce que là, on rentrerait dans une niche qui vous touche les deux aussi, au niveau énergétique ou climatique. Un des défis que j'ai pu relever, du moins en faisant un peu la recherche pour cette discussion, dans l'optique de la crise climatique, c'est qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est un sujet très polarisé, encore aujourd'hui, même si ça devrait l'être de moins en moins là, avec tout ce qu'on peut voir, mais ça reste que les acteurs qui sont dans le côté du changement peuvent avoir des façons de faire qui sont difficiles à pas supporter dans le sens que on veut pas que ça arrive, mais quand on est une grande organisation, de dire « j'endosse telle pratique, par exemple, de Extinction Rebellion, de bloquer un pont qui bloque le pont de Montréal, mais que la cause en tant que telle est basée sur la crise climatique. Mon point, ce serait peut-être l'enjeu de supporter cette cause-là. Est-ce qu'elle est difficile?
Je suis corrigé, oui, Gabriel, vas-y, vas-y. Une chose, là, parce que ça m'a frappé, parce qu'en ce moment, tu sais, là, on enregistre ça aujourd'hui, là, le pont de Windsor est bloqué depuis 5 jours par des camionneurs. Okay? Puis ils sont encore là, il n'y a pas d'accusation criminelle, rien.
Non plus.
Extinction Rebellion, ils étaient 3, puis ils ont déroulé une banderole. C'est la police qui a fermé le pont. Ils n'ont pas bloqué le pont. Puis ces gens-là ont eu des accusations criminelles contre eux. Et ça me frappe juste comme dire que dans ce cas-ci, le deux poids, deux mesures est vraiment frappant parce que la raison pour laquelle les gens de Windsor ne sont pas déplacés, c'est parce qu'ils sont armés probablement, puis qu'ils sont organisés, puis la police en a peur, alors que des manifestants non armés, pacifiques, avec seulement une bannière, ont subi une répression beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Là. T'sais, ceci dit, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer en faveur ou non d'Extinction Rébellion, mais je voulais juste mentionner que la décision de fermer le pont à l'époque, parce que je sais, j'étais à la Fondation David Suzuki, puis nous, on était atterrés de ça, parce que là, évidemment, ça avait mauvaise presse pour la cause environnementale, mais c'est la police qui avait fermé le pont.
Mais j'apprécie que tu me corriges parce que moi, c'était l'information que j'avais
connue. C'est ça qui arrive, c'est qu'on pense qu'il y a eu une action, le pont a été fermé, donc les gens qui ont commis l'action sont responsables de la fermeture du pont, mais ce n'était pas une nécessité. La police l'a fait parce qu'ils voulaient avoir une intervention tactique pour faire descendre les gens. Puis c'est correct, là, je pense que c'est la bonne intervention à faire, de faire descendre les gens. Si ça avait été une personne qui voulait s'enlever la vie, il aurait fait la même chose. Mais dans ce cas-ci, ils ont été naïfs, là, les gens d'Extinction Rébellion, c'était pas leur intention, mais c'est ça qu'ils ont causé, puis ils auraient dû y penser, là, en tout cas, bref, mais c'est pas eux qui ont fait ça.
C'est un autre débat de rentrer dans comment est-ce qu'on les médias démontrent un peu chacun de ces événements-là, mais par exemple, peu importe le résultat, la perception qui a été prise au niveau du grand public a été faussée, on peut dire, mais ça, en tant que tel, ça apporte peut-être une réticence au niveau de participer à l'aide d'organisations comme ça. Là, récemment, on a parlé avec le capitaine Paul Watson, qui était dirigeant de l'organisme qui s'occupait d'aller faire des interventions en haute mer contre des bateaux de pêche illégales. Mais tu sais,
Shepherd.
Oui, exactement, Sea Shepherd. Puis ma question, dans le fond, c'est est-ce que c'est un débat qui existe dans le milieu philanthropique de est-ce qu'on doit aider des organismes activistes ou on est plus dans l'action d'organismes de projets et tout ça?
Présentement, on est dans un contexte de grande crise mondiale. Mm-hmm. Il y a la crise climatique, puis on est encore dans la crise sanitaire, puis les initiatives de blocage qui ont démarré à Ottawa puis qui continuent de s'étendre le démontrent. Puis on est dans une crise sociale. Puis il va falloir pour que la relance, bien, on veut qu'elle soit verte, hein, qu'elle soit solidaire et prospère, mais il va falloir qu'on tienne en compte tous les aspects de toutes les crises dans nos actions. Puis la composante sociale dans la mise en place d'une économie qui va être plus faible en carbone, elle est vraiment essentielle. Puis la crise sanitaire au niveau des organismes, elle n'a pas été facile. La relance pour les organismes présentement au Canada est inégale. Il y a beaucoup d'organismes caritatifs qui continuent de subir encore les effets de la pandémie. Puis, en revanche, il y en a d'autres qui ont reçu, eux, un afflux d'amour, puis plus de financement qu'ils n'en ont jamais eu parce que leur cause a été peut-être plus mise de l'avant, justement, dans le cadre de la pandémie. Donc, il va falloir tenir compte de ces inégalités dans le financement des projets, dans nos implications philanthropiques. Puis, ça reste que les organismes sont là pour répondre aux besoins des populations, souvent les besoins d'urgence, puis les besoins sont encore grands. Les banques alimentaires n'ont jamais eu autant de demandes qu'elles en ont maintenant et ça se poursuit dans le temps. Puis la pénurie de main-d'œuvre touche les organismes aussi. La santé mentale de leur personnel on parle du personnel de la santé, puis évidemment, là, ils sont essentiels, puis on le sait qu'ils sont fatigués, mais dans les organismes, il y a aussi des enjeux de fatigue, de santé mentale, d'épuisement là, après 2 ans de pandémie. Puis sans compter que les organismes aussi, ils accueillent majoritairement une main-d'œuvre féminine qui a aussi particulièrement été touchée par la crise. Donc, il faut mettre tout ça ensemble là, dans nos analyse puis dans le soutien qu'on offre à la communauté là, pour l'avenir. Puis la collaboration, bien, c'est sûr, c'est au centre de tout ça. Puis dans les objectifs de développement durable de l'ONU, donc Karel faisait mention tantôt, le dernier objectif, le 17e, l'ODD 17, bien, c'est la collaboration. Puis l'idée de travailler main dans la main, autant les gouvernements que le secteur privé, la société civile. Donc, ça va passer par là pour qu'on s'assure d'un avenir équitable pour tous.
Je suis d'accord avec ça. Puis peut-être que ça m'a fait repenser à comment je construirais mon questionnement, mais c'est est-ce qu'on a la responsabilité d'intégrer les acteurs activistes dans cette collaboration-là pour le futur?
Oui, c'est fondamental. Mais la philanthropie a un problème avec ça. Elle a de la difficulté avec ça. OK? Puis, tu sais, activiste, pas activiste, c'est quoi la différence? Tu sais, je veux dire, Stephen Guilbeault, il a été arrêté 4 fois, maintenant il est ministre de l'Environnement, tu sais. Je veux dire, Gandhi était un activiste, là, puis Martin Luther King aussi. Puis donc, le truc là-dedans, c'est que il y a des moments où je pense que c'est important que des voix se fassent entendre. Puis en particulier, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai quitté la Fondation David Suzuki, c'est que je considérais que là où on était rendu au plan environnemental, ça prenait des gens qui étaient pas mal plus radicaux que moi pour faire bouger les choses. Tu sais, que moi, j'étais devenu un petit peu l'écologiste institutionnel. Là. Et que, ben, tu sais, après 25 ans où les émissions de gaz à effet de serre ont continué systématiquement à augmenter, on a convaincu beaucoup de gens, mais on n'a pas fait bouger l'aiguille. OK? Et là, tu sais, je vais juste, on va prendre un autre exemple puis celui du tabagisme. Mm. Tu sais, quand le lien entre le tabagisme et le cancer a été établi dans les années 60, au début, il y a eu des campagnes qui ont été menées pour convaincre les gens d'arrêter de fumer. Pendant ce temps-là, l'industrie menait des campagnes avec des médecins qui disaient...
Qui fumaient.
qui fumaient, oui. Tu sais, « More doctors smoke camels », tu sais. Et donc, tu avais, tu sais, c'est campagne contre campagne, tu sais. Mm-hmm. Comme en ce moment, tu sais, on dit aux gens, tu sais, faites attention, faites les bonnes choses, mais il y a, tu sais, 2 milliards par année d'investis dans des pubs de VUS, tu sais, comme OK? Bon, donc le tabagisme, on continue, on avance dans le temps, puis éventuellement, des organisations comme la Société canadienne du cancer ont fait de la recherche pour prouver les liens tabagisme, mais éventuellement, pour pouvoir passer là, en une génération ou deux, là, de deux tiers de gens qui fument, même trois quarts, à un tiers de fumeurs seulement, il a fallu qu'il y ait des gens qui fassent du plaidoyer politique. Donc, je reprends encore un exemple, la Société canadienne du cancer. On pense pas, ce n'est pas des activistes, ce n'est pas des gens qui vont s'attacher, à des pipelines ou des choses comme ça. Mais pourtant, le travail qu'ils ont fait avec d'autres associations de santé publique a fait en sorte qu'on a mis des taxes sur les cigarettes. Après ça, on a interdit les cigarettes dans les lieux publics. On a interdit la publicité de cigarettes. On a mis en place il y a eu des poursuites qui ont été intentées contre les compagnies de tabac. Donc, on a réussi à y arriver. Mais pour ça, il y a eu besoin de campagnes, de plaidoyer auprès des élus. Et si, ça peut être différent, par exemple, pour une organisation comme Énergir, mais nous, à la Fondation du Grand Montréal, notre objectif, c'est améliorer le mieux-être de la communauté à perpétuité, en allant loin dans le temps. Par le passé, la façon qu'on faisait ça, qu'on considérait qu'on le faisait, c'est qu'on distribuait des montants qui venaient en aide aux besoins d'aujourd'hui. Puis finalement, c'est un peu comme tu mets des plasters partout avec les peu de moyens que tu as, puis tu te dis, ben ça, au moins on a aidé, on est sûr d'avoir aidé. Bon, beaucoup de fondations se tiennent loin des activités de plaidoyer ou d'activistes parce qu'ils disent, c'est politique, on ne veut pas faire de politique. Mm-hmm. Le problème encore là, en faisant ça, tu soutiens le statu quo. Donc, si, par exemple, on considère que la question du tabagisme est un enjeu de santé publique, ou mettons, on pourrait prendre la question de l'obésité ou de la sédentarité en ce moment, puis qu'on se dit, on va faire ça uniquement en distribuant des dépliants dans les écoles, mais on ne commence pas à soutenir des campagnes, par exemple, pour taxer les boissons qui ont trop de sucre ou pour éliminer la malbouffe proche des écoles ou des choses comme ça, tu ne réussiras pas. Mm. Et donc, pour moi, le plaidoyer est la suite logique de l'action de soutien au terrain. Quand on a l'idée d'obtenir un changement qui est structurel ou qui est systémique ou qui va changer les choses à long terme, donc pour prévenir. Alors, en environnement, on est pile là-dedans. C'est la question de prévenir des changements cataclysmiques. En santé publique, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers sur lesquels on a besoin d'intervenir avec des lois, des règlements, des choses comme ça. Donc, moi, je pense que il y a un rôle pour la philanthropie de le faire. Ce n'est pas le rôle c'est pas d'aller soutenir des organisations comme Extinction Rebellion ou la désobéissance civile ou des choses comme ça, parce que fondamentalement, les gens qui font la désobéissance civile ou qui font des actions d'éclat, si tu commences à mettre un lien, parce qu'il faut qu'ils obtiennent un numéro de charité, puis tout ça, ils commencent à s'institutionnaliser, ils ne pourront pas poser les gestes, OK, comme non, ils veulent poser. Donc, c'est sain dans une société qu'il y ait des gens qui soient à l'extérieur de ça. Puis qu'il y a des gens, après ça, qui soient à l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui vont mener des activités de plaidoyer. Tu sais, quand je travaillais avec Steven, quand j'étais à la Fondation David Suzuki, il était sur Équitaire, on allait s'asseoir, tu sais, avec Michael Sabia, on parlait au ministre de l'Environnement, on parlait au premier ministre, mais on sortait dans les rues aussi avec 25 000 personnes ou 250 000 personnes. Ou, pour vous donner une idée, là, quand on a fait Greta, là, c'est moi qui suis allé chercher du financement. Mm-hmm. Trois semaines avant, on n'avait pas une scène, puis ça a coûté 175 000 piastres parce qu'on avait un demi-million de personnes, puis ça prenait la même logistique que pour faire le spectacle de Stevie Wonder à la place des spectacles, quand on a inauguré. OK? Puis, alors, tu sais, ça prend des passeurs comme ça, ça prend des gens, ça a pris des gens en philanthropie qui ont dit on va verser de l'argent à cette manifestation-là qui, à beaucoup d'égards, était. Comment je dirais, semi-légal, toléré, on va dire ça comme ça, mais parce qu'ils considéraient que c'était important de le faire et qu'ils avaient confiance, tu sais, que les organisateurs n'étaient pas des gens qui allaient causer du grabuge puis faire des. Puis comme de fait, là, tu sais, puis le contraste ne pourrait pas être plus grand. Là. C'est fascinant de penser qu'en ce moment, les gens d'Ottawa ont levé 10 millions de dollars, tu sais, puis qu'ils bloquent un centre-ville et que nous, on a levé 170 000, tu sais, comme sur vraiment la peau des dents. Pour mettre 500 000 personnes pacifiquement. Alors, tout ça pour dire que le plaidoyer, oui, est important. Je pense pas que c'est peut-être pas le rôle, par exemple, d'une organisation comme Énergir de soutenir des activités de plaidoyer, nécessairement. Parfois, oui, tu sais, des choses comme l'économie verte, des choses comme ça, on a travaillé avec Énergir par le passé. Mais certainement, les fondations privées et les fondations publiques, tu sais, qui ne sont pas des entreprises, qui n'ont pas de compte à rendre à leurs actionnaires nécessairement, ou tu sais, comme l'image publique n'est pas la même. On n'a pas les mêmes enjeux, nous. Donc, on est capable, je pense, d'aller un petit peu plus loin.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Karel. Je pense qu'on a besoin de tous. Hein? Et puis si on pense à l'environnement, autant des verts pâles que des verts foncés. Mais il y en a là-dedans, justement, qui accepteront jamais d'avoir un financement privé pour ne pas être associé à des entreprises. C'est ça. Il faut les. Faut laisser la place et puis le rôle à chacun dans tout ça. Puis, tu sais, ça revient encore à l'idée de la transition qui doit se faire ensemble parce que tout le monde s'en va vers un but commun. Puis, on a besoin parfois de ces activistes qui font des, en français, en bon français, des wake-up calls à tout le monde. Puis, on a besoin de ceux aussi qui font le travail de fond, puis le dialogue, puis les échanges, puis qui gardent aussi l'écoute comme au centre là, de leurs actions.
Mais ce que j'en retire, là, du moins, c'est vraiment ce. Il ne faut pas déterminer de ligne grasse qui empêche une action quelconque, mais il faut juger un peu le realm dans lequel notre institution se retrouve, puis son. Les actions qu'elle peut poser, par exemple, si on est une institution formelle, ben, il y a une responsabilité de lobbyiste un peu qui peut être prise. Puis l'action de désobéissance civile, ça reste peut-être à l'extérieur du champ d'action qui est possible. Mais il faut quand même réussir à considérer c'est quoi notre contexte à nous.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis c'est drôle, hein, les termes qu'on emploie, moi, c'est, souvent, je trouve ça, tu sais, on parle beaucoup d'activisme, de lobbyisme, tu sais. Puis comme l'activiste, c'est quelqu'un avec un mégaphone dans la rue, tu sais. Puis le lobbyiste, là, c'est celui qui va parler derrière des portes closes. Tu sais, les lobbyistes, c'est des gens qui cherchent à obtenir des gains pour eux-mêmes. Hein. C'était ça. Puis là, maintenant, on n'a pas trouvé le terme pour décrire des gens qui travaillent pour l'intérêt public. C'est-à-dire que quand tu vas rencontrer un ministre, puis tu es la Société canadienne du cancer, es-tu un lobbyiste vraiment? Non, tu es en train d'essayer de faire le rôle de citoyenneté, citoyenneté plus large, des organisations qui disent pour avoir des meilleures politiques publiques, on va tenter d'influencer. Mais c'est drôle parce qu'on met ces gens-là sur le même pied que ceux qui veulent obtenir une subvention de 2 millions, tu sais, alors qu'il y a une différence fondamentale pour moi entre des gens qui veulent travailler pour le développement du bien commun, de l'intérêt public. Ce qui devrait être le cas, dans le fond, de tous les élus. Là. et des gens, tu sais, puis c'est légitime. Un lobbyiste, le travail qu'il fait, c'est légitime parce qu'il va chercher à obtenir des ressources de l'État, des changements législatifs, tout ça, des choses comme ça. Mais ça m'a toujours, moi, rendu mal à l'aise qu'on mette sur. Puis j'ai eu des arguments épiques avec des gens des milieux d'affaires là-dessus, tu sais, en disant, ben non, tu ne peux pas me comparer, moi, tu comprends, à quelqu'un de l'Association de l'aluminium, là. Je veux dire, tu sais, moi, je suis en train d'essayer de dire il y a des gens qui vont mourir dans 25 ans si vous ne faites rien. Puis l'autre essaie d'obtenir une subvention pour une nouvelle technologie. Tu sais, ce n'est pas la même affaire. Mais c'est vrai que les rencontres sont avec les mêmes personnes, les processus se ressemblent. Heureusement, au Québec, les OSBL n'ont pas besoin de s'enregistrer comme lobbyistes. Au Canada anglais, au fédéral, on est obligé de le faire. Parce que c'est un peu absurde de penser, tu sais, que l'association de patinage artistique dans un quartier, quand ils vont rencontrer leurs députés, ils doivent s'enregistrer, tu sais, comme lobbyistes. Je trouve ça hallucinant, tu sais. Parce qu'ils demandent une subvention de 500$, tu sais, pour acheter des patins à une petite fille, là, tu sais. Alors, tout ça pour dire que activiste, lobbyiste, tout ça, tu sais, la terminologie est chargée. Puis quand on dit activiste, moi, je peux vous dire, ça fait peur à un board d'une fondation.
Oui, bien, c'est ça mon point aussi initial de dire comme il y a peut-être des gens qui s'empêchent d'agir par peur de la perception que ça va donner.
Exactement. Puis, tu sais, on vit dans un monde de perception, on le sait. Mm-hmm. Puis il y a des choses avec lesquelles on est plus confortable, des choses avec lesquelles on est moins confortable. En tout cas, moi, au bout du compte, mon expérience, c'est à toutes les fois que j'ai réussi à faire quelque chose qui a marché, c'est parce que, à quelque part, j'ai repoussé les limites, j'ai transgressé certaines règles non écrites. J'ai brisé des silos. Tu sais qu'on parlait de collaboration au début, là. Je pense que on vit dans une société qui est extrêmement complexe, qui a sa propre force d'inertie. Tu sais, quand je dis d'inertie, là, c'est un peu comme... C'est pas qu'elle bouge pas, c'est juste qu'elle bouge dans un certain sens, puis, tu sais, modifier ce sens-là, ça demande beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire que d'être quelque part un petit grain de sable dans l'engrenage. Donc, soit un entrepreneur social, soit quelqu'un qui demande une collaboration qui est inédite. Si j'aurais pu vous parler de la première fois que Steven et moi, on a collaboré avec le Conseil du patronat.
Mm-hmm.
Et on s'est fait crier des noms de notre côté. Puis le Conseil du patronat s'est fait comme littéralement grillé par son CA.
Ouf.
Mais 10 ans plus tard, les collaborations sont implantées, puis on est capable de prendre un téléphone, puis de se parler et tout ça. Puis c'est une force qu'on a développée. Ça prenait un risque au début. Et donc, à toutes les fois qu'on vient être un petit disrupteur dans le système, puis ça peut être des gens qui posent des gestes d'éclat, comme ça peut être des gens qui tendent la main à d'autres gens qui normalement ne travailleraient pas avec eux, on change l'inertie, on change la direction de la chose. Puis souvent, l'enjeu qui est difficile, je pense, en philanthropie, c'est qu'en philanthropie, on veut mesurer, on veut savoir d'avance qu'est-ce qu'on va faire puis comment on va le mesurer.
Mm.
Mais bien des fois, tu plantes, tu sèmes une graine puis tu ne sais pas ce qui va pousser. Et c'est là que ça devient vraiment le plus intéressant, tu sais. Et c'est vraiment, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive beaucoup. Puis là, on s'en parlera, ça fait juste 1 an et demi que je suis en philanthropie. Tu sais, dans quelques années, je vous dirai si je suis désabusé, tout ça, là, mais je pense qu'on a la possibilité, moi, de. Tu sais, à toutes les fois qu'on essaie quelque chose de nouveau, de différent, c'est plus porteur que rester dans nos pantoufles.
C'est vraiment inspirant, cette idée-là. J'aime vraiment beaucoup. Ça termine bien sur notre dernière section. Peut-être, j'irai avec Maryse, selon toi. Puis là, je parle peut-être plus à l'individu qu'à l'organisation, mais qu'est-ce que tu amènerais si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour améliorer l'état des choses pour ce qui est de la collaboration philanthropique?
C'est une grande question. Ça,
oui.
J'aimais moi aussi l'image de la graine, hein, qu'on sème puis qui va germer. Mais je dirais, tu sais, que c'est vraiment d'aller dans l'idée de répondre au mieux aux besoins des communautés pour pouvoir apporter des changements durables. Puis comme je mentionnais tantôt, de prendre en compte l'ensemble des crises en cours. Donc, vraiment garder des yeux à 360 degrés, hein, puis éviter les silos, Karel, vous le mentionniez, là, c'est vraiment notre pire ennemi. Là. Je pense que maintenant, il faut qu'on se donne tous la main pour travailler ensemble. On évite des redondances, on est plus performant, on est plus innovant quand on travaille ensemble. Là. Puis, vraiment, pour peut-être que je pourrais citer Sophie Brochu qui récemment là, mentionnait ça dans une de ses prises de parole. On veut avoir le plaisir de gagner la Coupe Stanley en équipe plutôt que d'avoir le trophée du meilleur marqueur. Mm. Je pense que ça dit bien ce que ça veut dire, l'énergie. On est au cœur de la transition pour lutter contre la crise climatique. On le fait par rapport à nos activités de décarbonation. Puis on le fait aussi jusque dans nos dons. Puis c'est vraiment là qu'on va pouvoir arriver à faire une différence.
Merci. On le souhaite. Puis je terminerai avec Karel. Peut-être une ouverture optimiste sur comment est-ce qu'on voit le monde philanthropique dans un monde où tout fonctionne.
Ouais. Écoute, comme je disais, je découvre encore ce nouveau monde-là. Et j'arrive dans le monde de la philanthropie à un moment dans l'histoire où le monde de la philanthropie est vraiment en train de faire une introspection importante puis de se transformer. Et c'est là qui est intéressant parce que le simple fait aussi qu'une personne comme moi ait été recrutée comme PDG d'une fondation communautaire, c'est un changement là, radical par rapport au passé. Mm-hmm. Parce que j'avais un passé de militant. Écologiste en plus, donc en philanthropie, l'environnement n'est pas toujours très présent, mais la plus vieille fondation communautaire au Canada, la fondation de Winnipeg, qui a 100 ans et qui a 1 milliard d'actifs, vient de recruter un autochtone de moins de 40 ans à sa tête. Donc, on voit là, tu sais, que généralement, tu finissais ta carrière à la tête d'une fondation communautaire. Là. C'était un peu comme un poste d'ambassadeur. Mais donc, il y a une transformation vraiment importante, y compris chez des fondations privées qui se disent, qui sont très dynamiques. Là, je pense, je suis très proche de la Fondation Trottier, qui sont des gens qui disent il faut taxer plus les riches, il faut puis qui veulent agir très, très de façon décisive sur le climat. Donc, le fameux monde idéal de la philanthropie, c'est un monde où la philanthropie se décomplexe, descend de sa tour d'ivoire, se rapproche de la communauté, donc comme je parlais d'une philanthropie de confiance, n'a pas peur de soutenir du plaidoyer, vise des transformations systémiques, toutes ces choses-là. Puis pour moi, ça devient un projet qui est intéressant parce que je dis souvent, là, je suis rendu à ma troisième carrière. Là, moi, j'ai commencé comme consultant international. Après ça, j'ai été militant. Puis là, maintenant, je suis en philanthropie. Puis ce qui m'a toujours animé, finalement, à travers ça, c'est toujours l'idée d'avoir un impact, d'être capable d'utiliser des leviers pour transformer, changer le monde. Et donc, la philanthropie est en train de se mettre dans une posture pour ça. Puis là, la question après ça, c'est est-ce que les gens qui créent des fonds philanthropiques, les gens qui, en ce moment, les baby boomers arrivent au moment où ils vont léguer beaucoup d'argent là, aux prochaines générations, puis ils font des dons de bienfaisance, tout ça. Est-ce que les gens qui génèrent, qui démarrent des fonds philanthropiques vont dire, OK, moi, c'est correct, je signe derrière cette volonté-là de changer les choses. Et si ça vient au rendez-vous, là le milieu philanthropique va devenir de plus en plus comme un agent de changement. Là. Moi, c'est ça que j'aimerais, de voir la philanthropie non pas comme quelque chose de très conservateur, mais vraiment quelque chose qui repousse les limites pour qu'on arrive finalement à ce qu'on souhaite, tu sais, qu'il y ait une société qui est plus juste, qui est plus verte, puis quelque chose qu'on va léguer à nos enfants qui va les rendre fiers.
Ouais. Je vous remercie. Ça a été un incroyable plaisir de parler avec vous aujourd'hui. J'espère que le plaisir est partagé. Puis j'espère que ces deux visions vont être capables de se consolider dans le futur.
Merci Gabriel.